Bonjour à chacune, à chacun. Je suis donc David Rosset, et puis j'ai la chance d'être le pasteur de cette belle communauté. Et puis, effectivement, ce matin, on va parler de transformation. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que chrétien, finalement, on est appelé à une vie de changement. Vous êtes au courant? Alors, c'est bon, on peut y aller. Il y a même certains qui vont chez le coiffeur, j'ai entendu dire, ouais, effectivement. C'était ma transformation de ce matin, ce n'est pas la plus compliquée, hein, ça va. On reprend notre verset de base qui guide notre réflexion. Nous tous qui, le visage dévoilé, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et en contemplant, nous sommes transfigurés ou transformés en cette même image, de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Si on veut engager nos vies sur un chemin de transformation, on a besoin d'avoir des socles solides. Et puis, c'est ce qu'on a vu un peu tout ce début d'année, c'est notre identité en Christ, en Dieu, où on est considéré comme étant créé à son image. Pas au hasard de je ne sais pas tout quoi, on est créé à l'image de Dieu avec un but, une destinée, d'être en relation avec Dieu. Et puis, c'est un but qui n'est pas statique. Puisque, ce texte nous le dit, c'est évolutif dans le sens où ce que nous sommes transformés de gloire en gloire, c'est-à-dire toujours plus par la présence de Dieu en nous. On a besoin de ce socle de confiance, mais en même temps, ce n'est pas un socle où on reste scotché, c'est un socle qui nous permet et nous permet d'oser le changement. Alors, je n'aimerais pas que cette série sur la transformation, ça débouche sur quelque chose de culpabilisant, parce que cette image de Dieu qui est en nous et ce regard que Dieu porte sur nous, que vous soyez transformés ou pas, il va continuer d'être valable. Mais je n'aimerais pas non plus que ça débouche sur quelque chose de statique, parce que la vie chrétienne, sachant ce capital de confiance qui nous est donné, ça nous pousse en avant pour être transformés de gloire en gloire. Alors, c'est une vie de mouvement, mais chacun a son rythme et selon les capacités reçues de chacun. Ce n'est pas une histoire de nous mettre la pression, c'est une histoire d'être mobilisé personnellement et en communauté pour aller de l'avant. Alors, est-ce que nous sommes convaincus que la transfiguration, la transformation, le changement font partie de la vie chrétienne? Moi, je dirais que plutôt, la réponse, elle est positive. Si on connaît le message biblique, ça semble un acquis. L'exemple de Jésus avec ses disciples, pendant 3 ans, il n'a pas arrêté de les faire changer, de leur faire faire des épreuves, des expériences, des enseignements qui les ont percutés. Si on prend Paul avec les églises qu'il a accompagnées, il est plutôt aussi assez punchy pour leur dire « là, vous êtes là, moi j'aimerais bien vous faire aller là ». Et puis il assiste, il argumente, il va vraiment au front. Si on prend aussi les prophètes de l'Ancien Testament qu'on a écoutés ce matin à travers la bouche d'Ézéchiel, tout le long, ils nous mettent aussi en avant. Ils ne nous laissent pas tranquilles parce qu'ils proposent des paroles, des proclamations de Dieu sur nos vies. Donc, convaincus généralement, je pense qu'on l'est tous. Par contre, est-ce qu'on a envie? C'est là que c'est toujours un peu plus compliqué. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui nous le montre très bien. Bon, vous avez bien compris, le changement, c'est pour les autres. Hein? C'est la réaction un peu de base au changement. Et puis, c'est une stratégie assez redoutable, cette réaction de base. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, c'est la mise à distance. On sait qu'on est interpellé. Je reviens à ma première slide là, que je vous montrais tout à l'heure. On est convaincu, ça, il n'y a aucun souci. Mais quand il s'agit de l'envie, on met facilement à distance. On pense que c'est en tout cas pas pour soi, mais pour les autres, là, comme ça a été très bien montré dans le sketch. Ou alors on met à distance de manière beaucoup plus subtile, c'était avec le petit coup de baguette magique, on pense que le changement, ça va être le petit coup de baguette magique, et puis en 2 secondes, on va se transformer en Dark Vador ou bien en fée clochette. Malheureusement, ce n'est pas ça. Mais ça, toujours est-il qu'on place des objectifs tellement loin que c'est aussi une stratégie de mise à distance par rapport au changement qui peut nous être demandé, ce changement qui soit là, présent au cœur de la vie chrétienne. Et ça arrive hyper souvent qu'on soit très convaincu de la justesse du chemin, mais qu'on n'ait absolument pas envie d'y aller. Et puis, j'ai une petite anecdote sur cette notion d'envie. Alors, elle est un peu scabreuse, mais je l'essaye quand même, quoi. Vous avez un pasteur qui a 40 ans, qui a des petits-enfants. Alors, j'expérimente assez souvent cette notion d'envie avec mes petits-enfants. Là, en l'occurrence, le dernier-né, il a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et puis, il commence à avoir envie d'aller tout seul aux toilettes. Alors, pour nous, c'est une grande nouvelle, hein, vraiment même une bonne nouvelle, presque évangélique. Parce que il y a un changement profond qui est en train de se vivre chez lui. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça commence à le déranger. Quand il a sa couche un peu pleine, il n'est plus tellement à l'aise. Donc, du coup, il anticipe. Et puis, cette anticipation, ce désir, le fait changer. Il a envie parce qu'il est dérangé, tout simplement. Tant qu'il n'est pas dérangé dans son corps, dans son être lui-même, il n'y a aucune chance pour que nous, en tant que parents, parce qu'on y a déjà dit des dizaines de fois, essaye d'aller, tu peux y arriver, vas-y, vas-y, et puis c'est l'injonction qui revient, mais c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Une fois que lui, du haut de ses 2 ans et demi, il a décidé qu'il allait y aller tout seul, il y va tout seul, sans problème, en un claquement de doigts. Le changement, et il y a quelque chose d'assez vrai dans cette petite illustration de la vie quotidienne de papa, c'est que ça doit venir de la personne en elle-même. Vous pouvez essayer toutes les stratégies, toutes les convictions pour essayer de convaincre quelqu'un de changer. Je pense que plus vous allez essayer, plus ça va le bloquer. Tant que ça ne vient pas de l'intérieur de la personne, tant que ça ne vient pas de désir profond, aucune chance pour que quelque chose change dans la vie. Et je crois que cette interpellation, elle est valable pour nous dans notre vie chrétienne. Tant que ça ne vient pas de nous, et puis en tant que croyant, parce que l'Esprit Saint met cette conviction en nous, aucune chance que ça bouge. Je peux vous dire tout ce que je veux sur ces 6 messages excellents sur la transformation. L'enjeu, il n'est pas chez moi, il est d'abord chez moi en tant que personne, mais il n'est pas chez moi pour vous convaincre. Il est chez vous de se laisser interpeller par Dieu. Est-ce qu'il y a un changement possible dans ma vie pour ces prochains temps ? Et puis, comme exemple, j'ai pris ce matin cet exemple d'oser parler de Dieu de manière assez libre et simple, finalement, à celles et ceux qui nous entourent. Ça peut être un changement qui nous parle ou pas. Ça peut être un changement, en tout cas, qui nous est proposé par la parole et notamment par l'apôtre Paul. Et là, on reprend quelques textes qu'on a déjà médités et puis je vais en ajouter quelques-uns des autres pour vraiment placer un peu cette constellation de couleurs qui nous parle de ce besoin de partager notre foi. On s'est pris comme vision d'église pour ces X prochaines années de se dire qu'on est ensemble pour partager l'amour du Christ avec chacun. On est vraiment dans cette notion de partage. Et puis, une des manières de partager en tant qu'être humain qui nous est donnée, ben, c'est de parler. On a le langage, on a reçu le don du langage, donc utilisons-le. Et c'est exactement ce que nous dit Paul dans ce 4e chapitre de 2 Corinthiens. « Dès lors, puisque nous avons ce ministère qui nous est confié à tous, selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous refusons consciemment les secrets de la honte. Nous ne nous comportons pas avec ruse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité cachée, non, manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. » Et un peu plus loin, « Pourtant, fort de ce même esprit de foi dont il est écrit, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. » Quel résumé ? « Nous croyons nous aussi et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et il nous placera avec vous près de lui. Et tout ce que nous vivons, c'est pour vous, afin qu'en s'accroissant, la grâce fasse surabonder par une communauté accrue l'action de grâce à la gloire de Dieu. » Amen. Et puis dans un autre texte, dans une autre lettre qu'il envoie à une autre église, aux Romains, et parlant du peuple d'Israël, des Juifs qui ont aussi besoin d'entendre parler de qui est Jésus, ça nous rappelle une petite prédication de la semaine passée. Voilà ce qu'il nous dit. « Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui ? Et comment croirait-il en lui, en Jésus, sans l'avoir entendu. Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame ? Comment l'entendrait-il si personne ne le proclame ? Et comment le proclamer sans être envoyé ? Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ce texte que je l'ai pris dans Romains 10 et les versets 14 et 15. Parler de Dieu autour de nous, ce n'est pas une chose si évidente que ça en tant que chrétien, en tant que croyant. Et lorsque je propose cet élément à plusieurs d'entre vous, et lorsque j'y réfléchis aussi pour moi-même, il y a deux remarques qui reviennent systématiquement en retour. Et puis, c'est un peu deux remarques auxquelles j'ai envie un peu de tordre le cou ce matin. La première, c'est parler de Jésus, donc partager l'amour de Jésus. Ça veut dire prendre mon stand, aller mettre des affiches sur la place Bel Air le samedi matin, vendre des Bibles et puis accoster tous les passants qu'il y a dans la rue pour leur dire que Jésus les aime. En gros, c'est ce qu'on entend peut-être dans nos subconscients pour dire quand il faut parler de Jésus, c'est-à-dire que je dois aller dans la rue. Ou deuxième option, encore un peu pire, c'est aller faire du porte-à-porte type témoin de Jéhovah pour dire « Écoutez, Jésus vous aime » et puis on ne sait plus où se mettre et puis on est très mal à l'aise. Dans notre subconscient, c'est un peu ça. Parler de Jésus, évangéliser, ça veut dire aller dans la rue. Je n'ai pas fait de statistiques, mais c'est impressionnant quand je demande aux personnes « Est-ce que vous avez envie de témoigner ?» Les 9 sur 10 me répondent « Non, mais tu sais, ce n'est pas tellement mon truc d'aller dans la rue et puis de parler de Jésus aux gens. » C'est impressionnant. Je ne les ai pas demandé d'aller parler dans la rue, j'ai demandé « Est-ce que vous partagez votre foi en Jésus ?»« Non, mais moi, tenir un stand comme ça, ça ne va pas, ce n'est pas top. Puis je ne suis pas très à l'aise comme ça avec des inconnus. » Bon, ok, mais quand est-ce que je t'ai parlé d'inconnus ? Bon, vous avez compris le truc, c'est un mécanisme qui est dans notre tête. Et puis de là, on se dit, impossible de parler de ma foi, puisque parler de ma foi, ça veut dire ça. Vous voyez l'équation un peu, la conjonction. C'est un peu ce mécanisme-là qui va prendre du temps un peu à couper comme ça. Clac. Le deuxième mécanisme qui est bien inscrit dans nos pensées, c'est, alors moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, David, de parler comme ça de Jésus, mais moi, je préfère agir, en fait. Parce que déjà, agir, les actions, ça a plus de poids que la parole. Et puis, parler, s'il n'y a que des beaux parleurs, ça n'a jamais servi à grand-chose. Ce qui compte, c'est les actions. Là, on est dans le terrain, dans le vrai de vrai. Les beaux parleurs, ça ne m'intéresse pas. De nouveau, il y a quelque chose du mécanisme profondément ancré en nous. On sépare les paroles des actions. On considère que c'est deux choses complètement indépendante et autonome l'une de l'autre. Et là, la nuance est un peu plus subtile parce que je pense que c'est un changement assez profond que de vouloir remettre ensemble la parole et l'action dans une même action finalement, ou en tout cas dans un même élan. Parce que si on prend un petit pas de recul, on se rend compte que la société dans laquelle on vit, une société laïque, et puis je ne me prononce pas si du pour ou du contre la société laïque, mais cette société de type laïque nous pousse de toutes parts à dissocier ces deux aspects. Il faut en être conscient. Parce que ce qu'elle nous autorise à faire, en gros, dans l'espace public, c'est des bonnes actions. Partager nos valeurs, partager des valeurs d'hospitalité, de bienveillance, de différents éléments de ce type-là, de solidarité. Ça, finalement, c'est ce qui est attendu, de manière souvent tacite et implicite, de la part des chrétiens. Donc on peut agir d'une manière assez libre, mais d'une manière aussi assez, voire même totalement, discrète. Au moment où, dans cette société de ce type-là, on dit au nom de qui est-ce qu'on agit, ça commence un peu à se corser. On peut partager nos valeurs et puis c'est une bonne chose. Au moment où on le dit que c'est au nom du Christ qu'on le fait, là, ça peut devenir un peu compliqué. Alors de nouveau, je ne prends pas position si c'est bien ou mal. Je constate juste que le bain dans lequel nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes, il est de ce type-là. Donc, Cette dissociation que l'on prend assez souvent comme un acquis, où on sépare les actes de nos paroles, c'est une dissociation qui nous est fortement recommandée par la société dans laquelle on vit. C'est une dissociation qui est induite par l'environnement ambiant. Et je trouve que le sachant, on peut agir beaucoup plus en connaissance de cause et puis, entre guillemets, essayer de prendre position par rapport à cela. De se dire, oui, je pense que c'est une très bonne chose qu'on puisse vivre nos valeurs et on a à le faire en tant que chrétien. Et oui, c'est parfois bon de pouvoir le dire au nom de qui on le fait. Qu'est-ce qui est notre moteur pour vivre comme nous essayons de le vivre? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Quelle est notre passion? Pourquoi est-ce qu'on s'engage sur ces sujets-là, ces sujets-là, ces sujets-là qui peuvent être très compliqués? Je pense qu'on nous enjoint de dire « reste discret là-dessus ». Et puis à force de rester discret, on ne sait plus comment simplement mettre en lumière qui nous sommes en tant que croyants à la suite du Christ qui sommes aussi appelés à partager. Parce qu'agir, beaucoup de personnes le font très bien, voire mieux que nous en tant que chrétiens. Soyons honnêtes et je m'en réjouis beaucoup. Par contre, nous restons les seuls, les chrétiens, à pouvoir témoigner d'une autre dimension, la dimension spirituelle, celle qui nous relie à Dieu, celle qui nous ouvre sur une dimension d'amour autre que celle qu'on peut vivre au jour le jour. Une dimension qui dépasse le cadre habituel de nos représentations. Une dimension qui élargit, qui ouvre à quelque chose d'autre. Si nous, croyants, chrétiens, on ne prend pas cette place-là, mais on se contente de simplement agir et d'aller sur la base des valeurs, personne d'autre ne va prendre cette place-là. Personne d'autre ne va venir à notre place puis nous dire « Ah, mais vous ne pourriez pas nous rappeler qu'il y a peut-être un Dieu qui existe, qu'il y a peut-être une espérance, qu'il y a peut-être quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a peut-être un Créateur qui a voulu de nous sur cette terre, qui nous a créé à son image. » Qui d'autre va le dire si nous, on se contente simplement d'action? Alors, parler, ce n'est pas si évident que ça. Il y a ces deux écueils. Mais j'aimerais vous donner simplement quelques pistes toutes concrètes pour essayer de nous mettre en route sur ces sujets-là, dans nos relations et pas que dans la rue, vous avez entendu. La première chose, c'est que nous encourage à être vrai et simple. Dire tout simplement ce que nous vivons dans notre vie de foi. Parce que notre vie de foi, c'est une vie de relation avec Dieu. C'est une vie de prière, on l'a aussi vu dans le dernier culte, une vie de prière qui est là, bien vivante parce qu'on s'adresse à quelqu'un de bien vivant. Alors quand on en parle, quand on le partage, cet amour-là, soyons le plus vrai et le simple possible. Dire ce que l'on vit dans notre foi, ses joies, ses peines, ses échecs, ses réussites, ce qui nous a touchés, ce qui ne nous a pas touchés. Finalement, oser simplement dire ce qu'on vit. Deuxième petit conseil très pratique, pas besoin de faire de longs discours. J'ai l'impression que, de nouveau, on peut trouver une mise à distance pour éviter de changer, c'est de se dire, moi, je suis plutôt introverti, donc je ne sais pas parler, donc ce n'est pas pour moi. Moi, je suis extraverti, je suis un peu mal placé pour le dire, mais il n'y a pas besoin de faire des discours interminables pour simplement dire au nom de qui on fait quelque chose ou bien qu'est-ce que Dieu apporte dans ma vie. Une simple phrase, souvent, a plus de poids que des longs discours pour simplement signaler à la personne qui nous écoute, oui, je ne suis pas tout seul, parce que ouais, ça m'arrive de prier, et puis cette prière m'a beaucoup aidé. J'ai encore lu un post ce matin d'une personne de notre communauté qui a mis « Merci Seigneur de m'avoir aidé » sur Facebook, je l'ai lu, « Merci Seigneur de m'avoir aidé à traverser cette épreuve. Amen. » Puis il y a plein de personnes qui ont répondu « Ah bon, tu as eu un truc, tac, 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 comment ça se fait ?» Eh bien, le fait de pouvoir simplement en quelques mots, dire la reconnaissance au Seigneur d'avoir aidé à traverser cette épreuve-là, ça fait une grosse différence. Pas besoin de le discours ni d'être convaincant. C'est aussi se donner le droit d'être maladroit. Ben ça, c'est aussi quelque chose que j'entends souvent. C'est si je commence à parler de Dieu, qu'est-ce qui se passe si je fais mal? De nouveau, on a un peu, je ne sais pas si... C'est bien ce que je dis toujours, mais je pense qu'on a un peu en arrière-plan cette idée des témoins de Jéhovah qui embêtent beaucoup les personnes en s'immisçant dans leur vie privée. Peut-être que nous, on a aussi inconsciemment cette résistance de dire, si moi je commence à parler, je cours le risque d'être maladroit et je ne vais pas forcément le faire. On est humain, faillible, ça vous le savez tous. Donc, si on parle de Jésus puis qu'on se lance sur cette voie-là, on a beaucoup de chances d'être maladroit. Et alors ? Allons-y avec qui on est, de nouveau, d'être vrai et simple. J'ai lu pendant ces vacances le témoignage d'une femme qui a vécu une expérience spirituelle extrêmement forte. Elle s'est retrouvée tout à coup, presque dans un état de mort imminente, avec un état de conscience et de proximité avec Dieu qu'elle n'avait jamais vécu dans sa vie. Elle en est revenue, et quand elle est revenue chargée de cette expérience extraordinaire, elle a retrouvé sa famille, son mari qui n'est pas chrétien, et ses trois enfants qui ne sont pas chrétiens. Elle se demandait comment il fallait faire, là, au milieu. Comment parler de quelque chose qui, de prime abord, est complètement étranger au contexte le plus proche qui était le sien. Et puis, dans l'interview, elle a donné cette phrase qui me parle beaucoup pour notre sujet, et puis qui est très importante pour nous dans notre manière de partager notre foi. Elle disait, dans cette interview, par rapport aux membres de sa famille, « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce qui était à l'origine, mais je suis chargé simplement de vous le dire. » Puis je crois que ça nous apporte beaucoup, ça. En parlant de Jésus, on n'est pas en train d'essayer de convaincre l'autre, voire même de convertir l'autre. Ça, seulement le Seigneur le peut. Par contre, notre mission, de le dire aux autres, de le partager aux autres, ça, ça nous incombe. Ça, Dieu ne va pas le faire à notre place, puisque explicitement, il compte sur nous. Et je crois que ça peut demander un changement important, de se dire que notre mission n'est pas de convaincre l'autre, notre mission est d'ouvrir notre cœur pour dire ce que Dieu fait dans nos vies. C'est complètement différent. Ensuite, l'Esprit de Dieu va faire, lui, la différence, et puis je me réjouis que ce soit lui qui le fasse, puis jamais nous. C'est jamais une seule personne qui va réussir à convertir ou à convaincre quelqu'un. C'est que l'Esprit de Dieu, ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est notre manière de nous ouvrir à l'autre. Et puis finalement, dernière petite piste pratique, c'est que la réaction de l'autre ne m'appartient pas. Moi, je peux lui présenter comment il ou elle va réagir. Finalement, ça ne m'appartient pas. Puis là aussi, c'est une bonne chose. Ce n'est pas de ma responsabilité de savoir si la personne va bien le prendre, mal le prendre, ou si elle va être indifférente. Et puis, ma petite expérience me montre que 99 fois sur 100, c'est perçu très positivement parce que les gens avec qui nous entretenons des rapports, avec qui nous avons déjà une relation, ils sont plutôt contents et puis honorés de savoir ce qui se passe dans nos cœurs. Ils sont contents et honorés de savoir ce qu'on vit au plus profond et ce qui ressort de notre vie personnelle. En tout cas, c'est ce qui m'arrive assez fréquemment. Plutôt un encouragement, la réaction de l'autre, elle est souvent très positive. Et puis, pour donner encore quelques éléments plus concrets, je vous partage trois petites anecdotes où il y a quelqu'un qui vient me voir et puis qui me dit « Cette semaine, j'ai eu une séance qui était prévue, qui était assez compliquée au travail. Et puis, avant la séance, j'ai prié pour que cette séance puisse se dérouler de manière ferme, mais bienveillante. Arrive la séance, elle se passe bien. Et puis, arrive le moment un peu de débriefing avec les différents acteurs. Et puis, il se dit, c'est impressionnant, il y avait comme une sorte d'unanimité que cette séance était parlée de manière ferme et bienveillante. Et à ce moment-là, cette personne m'a dit, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai dit, c'est cool parce que moi, j'avais prié pour ça. C'est tout bête, hein. C'est pas extraordinaire. J'avais prié pour ça. Et quelques jours plus tard, une autre participante à la séance vient vers cette même personne puis lui dit, tu sais, moi aussi, j'avais prié pour ça. On se découvre des affinités comme ça, insoupçonnées, dans nos relations, simplement en osant ouvrir son cœur. Et puis, une autre anecdote, quelqu'un qui était sur un projet compliqué, il y avait des tas de problèmes, il arrive un peu en dernier cours, ça prend des mois et des mois le temps que le projet se termine, et puis à la fin du projet, il y a le propriétaire qui vient et puis qui lui dit vraiment, c'est un miracle qu'on soit arrivé au bout. Puis la personne lui répond là, oui, parce que j'ai demandé plusieurs fois un miracle dans la prière, vous savez. La personne était toute interloquée, elle dit « Ah bon, ok, parce que vous êtes croyant. » Et ensuite, la conversation s'engage. Ça, vous voyez à quoi ça tient, hein? C'est des petites phrases, pas de long discours, où on peut simplement dire notre foi, parce que c'est sûrement ce qu'on fait souvent, prier avant une séance qui s'annonce difficile, prier pour un projet qui est compliqué, puis on ne sait pas comment ça va, sur quel point ça va aboutir, prier pour finalement différents aspects de notre vie quotidienne. Puis je veux quand même donner un personnel d'exemple, parce que je sais bien que je suis un peu à quart particulier à ce niveau-là, parce que dès que je commence la conversation, on me coince souvent, ben, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Puis là, ben, moi, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de me dévoiler. Je suis piégé, donc voilà. Moi, ça me convient bien parce que ça va assez vite dans le vif du sujet. Et puis, c'est vrai que dans les temps de vacances, c'est du bon temps, non seulement parce qu'on peut aller faire du ski, mais aussi parce qu'on peut ouvrir souvent notre table et puis revoir des amis que ça fait longtemps qu'on n'a plus vus. Et puis, c'est vrai que dans notre famille, on a une petite tradition, c'est de faire la prière avant chaque repas. Alors, j'ai déjà entendu mille et une excuses ou bien critiques parce qu'on me dit que c'est un peu légaliste, c'est rébarbatif. Attends, qu'est-ce que j'ai encore entendu? Que c'est dépassé, qu'on ne fait plus ça maintenant. Bon, tous des éléments qui m'ont beaucoup encouragé à continuer cette pratique. Je me suis dit, je vais faire exprès de faire le contraire. Et puis, du coup, quand il y a des invités, bon, on ne change pas nos habitudes, on prie aussi à table. Et puis, c'est intéressant de voir les réactions de, notamment des enfants, mais aussi après, du coup, des parents qui sont là, puis qu'on prend ce petit moment au début de repas pour simplement remettre en reconnaissance, de dire merci pour les aliments qui sont devant nous, penser à ceux qui en sont privés, et puis exprimer une forme de solidarité. Et puis, ça nous est arrivé deux, trois fois pendant ces vacances d'accueillir des personnes autres. Puis une m'a dit, ben, c'est quand même super cool de voir que l'Église, elle n'est pas seulement pour les croyants qui vont tous les dimanches matins, mais que ça s'élargit aussi de temps en temps. J'ai trouvé que c'était assez sympa, que l'Église, elle n'est pas seulement là pour les hommes pieux puis qui vont tous les dimanches à l'Église, mais là, on en profite un petit peu. Puis une autre qui a tout de suite voulu expliquer à sa fille pourquoi est-ce qu'on prie à table, et puis qui a donné l'exemple, ben, ça nous encourage à la solidarité avec toutes les personnes qui n'ont pas forcément assez à manger. Donc, par un petit élément, finalement, de nouveau assez basique, la prière à table, que de prime abord, les chrétiens trouvent un peu rébarbatif, ça nous donne peut-être une occasion de parler et de dire qui est Dieu dans nos vies. Alors, je nous encourage pour ces prochaines semaines à une phase pratique, concrète, pour chacune, chacun d'entre nous, et je m'inclus dedans. Nous sommes dans ce moment de préparation à Pâques. On a commencé ce que nos amis catholiques appellent le temps de carême, et qui nous guide vers Pâques en nous offrant, je trouve, un temps propice à la méditation. Et puis, je vous laisse cette question. Qu'est-ce qui aurait besoin de changer dans ma vie de foi? Où est-ce que je peux discerner un désir de changement? Aussi peut-être en rapport avec le fait de dire ma foi, de partager ma foi avec ceux qui m'entourent. Je nous laisse cette question, pas seulement pour ce matin, mais pour les jours prochains, les semaines qui viennent. Qu'est-ce qui aurait besoin de changer dans ma vie de foi? Et puis ensuite, de prendre le temps, ou votre téléphone, en tout cas, ou même un calepin, pour noter une chose, une attitude qui aurait besoin de changer. Pas 15, hein, parce que si vous faites la liste, là, vous serez bientôt dans la volonté d'aller comme Dark Vador. Mais une chose que vous auriez envie, vous discernez que vous avez envie de changer dans votre vie de foi ou dans votre vie de témoignage. Ensuite, cette chose, vous pouvez la tester sur le terrain, la tester concrètement dans vos relations, dans vos différentes manières d'être. Et puis, à la fin de cette série, on va faire le bilan tous ensemble. Et puis, je vais ouvrir un temps de témoignage pendant le culte. Ça peut être un temps de témoignage aussi où vous simplement vous me contactez puis vous me dites, ben voilà, moi j'ai essayé ça, il s'est passé ça. De nouveau, en toute vérité, je ne veux pas que des témoignages plein de succès, j'ai réussi, puis on bombe le torse. Je préfère avoir des témoignages d'essais que des témoignages de réussite. On se dit, ben voilà, C'est une perspective que j'ai à cœur, j'ai un désir, j'ai envie d'essayer. Après la réussite, on verra bien. Peut-être que oui, puis on s'en réjouira à tous. Peut-être que non, et puis ce ne sera pas la catastrophe. Mais qu'on puisse faire le bilan et partager ensemble, peut-être quelques-uns au culte, et puis aussi je nous encourage à le faire dans tous les petits groupes qui composent notre communauté, les connect groups, les cellules de maison, qu'on puisse pendant ce temps jusqu'à Pâques se dire de partager une attitude, un élément qu'on aura envie de changer dans notre vie de foi, dans notre partage de la foi, et ensuite le partager peut-être au sein du petit groupe et éventuellement aussi au culte pour ceux qui ont peut-être plus de facilité à s'exprimer en public. Tout ça, je nous le laisse et je prie que nous puissions le vivre. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu nous donnes cette promesse que nous sommes transfigurés, transformés de gloire en gloire, c'est-à-dire avec ta présence au cœur de nos vies, par la force de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tout ce que nous avons partagé ce matin, tout ce que nous avons médité ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que nous nous attendons à toi. Nous attendons à ton esprit qui vienne souffler dans nos cœurs, ton esprit qui vienne nous habiter de sa présence de gloire. Tout seul, on n'y arrive pas, ce n'est pas un espèce d'objectif qu'on peut se fixer comme dans une entreprise. C'est une ouverture à qui tu es. Et Seigneur, souffle dans nos cœurs en tant qu'individu, en tant que communauté, pour que nous puissions nous ouvrir à cette vie de changement, à cette vie de transformation, de gloire en gloire. Amen.